France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. L'Iran qui promet une punition à Israël au lendemain de la mort de l'un de ses généraux en Syrie, tué par un raid israélien. Quelles conséquences? Quelles répliques? On en parle avec notre invité dans quelques minutes. Ce matin, 7 employés d'une ONG américaine ont été tués par l'armée israélienne à Gaza. Condamnation internationale de Pékin à Washington. Nous tenterons de comprendre ce qui s'est passé. À suivre encore. Les inondations en France, c'est désormais la Bourgogne qui est la région la plus concernée, avec deux de ses départements en vigilance rouge. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour.
Vous vous trouvez dans l'Yonne à Tonnerre, quelle est la situation?
Eh bien ça grimpe tout doucement ici, hein. L'Armançon, la rivière qui traverse la ville, a dépassé les 2 mètres, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on attend lors du pic prévu ce soir. Les inondations pourraient encore être plus importantes que celles de 2013 dont tout le monde se souvient ici.
A tout de suite pour votre reportage. Dans les prochaines minutes, nous parlons du député Julien Bayou qui quitte son parti Europe Écologie Les Verts, il en était l'ancien patron. De plus en plus d'ours dans les Pyrénées, 83 précisément recensés l'an dernier, et puis l'alerte d'un champion du monde, Raphaël Varane, dénonce les commotions cérébrales dans le foot. Nous écouterons son médecin. À partir de 13h30, on parle des cold cases, ces affaires criminelles non élucidées. Un pôle dédié existe depuis 2 ans. Il lance aujourd'hui des appels à témoins en vidéo.
La police relance l'enquête aujourd'hui pour apporter une réponse pénale aux victimes afin qu'elles se reconstruisent et pour éviter que d'autres femmes soient victimes de ce prédateur sexuel.
Le procureur de Nanterre, Pascal Prache, sera avec nous pour en parler. J'attends vos appels 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France, le tout tourisme, les vacances avec son chien, un vrai business, nous dira Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, les patineurs Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis demande le compositeur américain John Legend à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
La pression internationale a rarement été aussi forte sur Israël depuis le début de la guerre avec le Hamas. Il y a d'abord les conséquences de ce raid mené hier contre un bâtiment de l'ambassade d'Iran en Syrie, à Damas, du jamais vu. 11 morts, dont 2 commandants d'un corps d'élite du régime iranien. Téhéran promet de répliquer. Comment? Nous voyons cela avec notre invité dans une minute. Et puis il y a ce matin cette frappe menée là encore par l'armée israélienne dans la bande de Gaza et qui a touché un véhicule humanitaire. Il s'agit de l'ONG américaine World Central Kitchen, qui distribue de la nourriture aux Palestiniens. Il y a 7 morts, Australiens, Polonais, Britanniques, Américains, Canadiens et Palestiniens. Alors, condamnation de la Chine, des États-Unis, de l'Union Européenne, entre autres. Mais l'armée israélienne, elle parle d'un incident tragique, sous-entendant qu'elle ne visait pas cette ONG. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Pour plusieurs responsables humanitaires, en revanche, les choses sont très claires. Israël frappe délibérément les ONG qui interviennent encore à Gaza.
Et ce qui reste ce matin, ce sont les images sur les réseaux sociaux des 2 voitures blindées de l'organisation. L'une d'entre elles a un trou de presque 1 mètre carré sur le toit, l'autre est en charpie. On voit aussi les corps des humanitaires qui portaient un casque et des gilets pare-balles. Les premiers éléments sont accablants, les 2 voitures blindées étaient repérables. On voit le logo qui recouvre le toit. L'ONG dit qu'elle avait aussi prévenu l'armée israélienne du déplacement. L'équipe venait de quitter un entrepôt à Deir el-Bala, dans le centre de l'enclave dans lequel elle venait de livrer de l'aide humanitaire. World Central Kitchen est un rouage essentiel dans la distribution de nourriture à Gaza. Elle considère qu'avec cette attaque, ce sont les humanitaires en général qui sont visés. Ce que confirme le vice-président de Médecins du Monde, Jean-François Corti, interrogé ce matin sur France Info.
Aujourd'hui, il y a plus de 150 morts des Nations Unies sous les bombardements. Médecins du Monde, nous avons perdu un médecin il y a quelques mois. Médecins Sans Frontières aussi a perdu plusieurs morts. Et cette situation, elle est exceptionnelle du fait des mortalités aussi importantes d'humanitaires dans un conflit contemporain. Et nous ne pouvons pas, aujourd'hui, les humanitaires, travailler dans des conditions qui permettraient de limiter le risque de famine en cours.
Et World Central Kitchen annonce la suspension de ses opérations dans la région, alors que le nord de la bande de Gaza est au bord de la famine.
Merci Étienne Monin. Là, aucun commentaire de la part d'Israël. Après ce raid meurtrier mené donc hier contre une annexe de l'ambassade d'Iran à Damas, au cœur de la capitale de son allié historique, la Syrie, bilan 11 morts, dont un général commandant la force iranienne pour la Syrie et le Liban, selon l'ambassadeur d'Iran en Syrie. Qui lui n'a pas été touché, le bâtiment a été visé par 6 missiles tirés par des chasseurs F-35. Bonjour Thierry Coville.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes l'un de nos meilleurs spécialistes de l'Iran. Thierry Kovitch, je le disais, l'attaque a visé une annexe de l'ambassade, c'est-à-dire un territoire iranien en Syrie. C'est ça qui est particulièrement grave pour Téhéran aujourd'hui ?
Oui, c'est même grave pour n'importe quel pays. Je crois que c'est le consulat iranien. Donc, on va dire, sur le plan du droit international, c'est comme c'était le territoire du pays en question qui a été attaqué.
Quelle forme peut prendre la réponse iranienne qui a été annoncée ce matin, à la fois par le président et à la fois par l'ayatollah Khamenei ?
Alors, la stratégie de l'Iran depuis le début du conflit à Gaza, c'est d'agir par l'intermédiaire de l'axe de résistance, donc c'est ses alliés en Syrie, en Irak, les Houthis au Yémen. Mais l'idée, c'est toujours de pas aller trop loin pour éviter un conflit direct avec Israël et sans doute avec les États-Unis. Donc, voilà. Est-ce que la stratégie de l'Iran va changer? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que l'Iran est toujours très calculateur, veut pas prendre ce risque. Mais bon, je vous dis, c'est quand même le consulat iranien en Syrie qui a été visé. On va dire, du point de vue de leur... de leur fierté, de leur crédibilité, ils ont annoncé qu'ils allaient répondre. On va voir, effectivement, les spécialistes pensent plutôt par une action, par l'intermédiaire de leurs alliés dans la région.
Oui, ce qui voudrait dire qu'on n'est pas dans une escalade du conflit entre Israël et l'Iran. C'est s'il y avait une réplique directe de l'Iran vers les intérêts israéliens, qu'on aurait là une gradation dans le conflit, si je puis dire.
Oui et non, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il y a quand même eu l'attaque d'un drone contre une base militaire en Jordanie. Il y a eu quand même plusieurs soldats américains tués. Suite à la réaction des Américains qui ont bombardé des positions des milices chiites en Irak, comme par hasard, vous voyez, l'Iran a bien compris le message, donc on a arrêté ces attaques. On peut craindre notamment que ces attaques contre les bases militaires américaines dans la région reprennent, parce que du point de vue des durs en Iran, si Israël a fait ça, ils avaient forcément l'accord des États-Unis.
Que cherche Israël avec ses frappes, Thierry Kovitch ?
Écoutez, là, moi, je suis mal placé. Il faut vous poser la question à un spécialiste d'Israël. Bon, moi, je veux plutôt vous parler il y a assez d'incertitudes pour la position iranienne. C'est clair, c'est ce que un peu tous les spécialistes disent, là, et vous l'avez dit vous-même, là, l'attaque par rapport à un consulat, c'est quand même le territoire du pays en question qui est visé. Là, effectivement, on va dire, il y avait déjà des fortes tensions. Là, il y a un nouveau pas qui est franchi dans ce conflit, qui ne veut pas dire son nom entre l'Iran et Israël.
Merci à vous, Thierry Kovitch, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste de l'Iran. La situation au Proche-Orient et en Ukraine, qui sera au cœur des discussions cet après-midi à l'Élysée, entre le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui est donc en visite en France, et le chef de l'État, Emmanuel Macron, seront également présents, les ministres français des Affaires étrangères et des Armées. Mais là, c'est un conflit qui échappe très largement aux médias du monde entier, mais dont nous avons choisi de vous parler. Nous sommes à l'est du Congo, la rébellion du M23 encercle la ville de Goma, c'est la capitale du Nord Kivu, 2 millions d'habitants. Et depuis que les insurgés soutenus par le Rwanda ont repris les armes, en 2021, jamais les combats n'avaient été si proches de cette capitale où des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge. La situation humanitaire y est catastrophique, d'où l'appel lancé aujourd'hui par le président congolais, Félix Tshisekedi. Il appelle la communauté internationale à prendre des mesures. Interview accordée à notre envoyé spécial sur place, Claude Guibal.
Cette agression, elle est pour des raisons économiques, pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. Et ça se fait au prix d'une épuration ethnique qui ne dit pas son nom. Parce qu'à cause des massacres et des violences qu'exerce le Rwanda, des populations entières se déplacent, qui vivent dans des conditions infrahumaines. Et ces populations, on les déplace de force parce que les localités qu'elles habitent, leurs localités d'origine, contiennent des matières utiles aux pays industrialisés. Je vais être très dur, c'est de la complicité. À la mort de Navalny, il y a eu 500 sanctions des États-Unis contre la Russie. 500 pour un individu. Au Congo, ça fait 10 millions de morts. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des organisations humanitaires. Combien de sanctions contre le Rwanda ? Zéro. Si ça, c'est pas du deux poids deux mesures, dites-moi ce que c'est.
Le président congolais Félix Tshisekedi avec nos envoyés spéciaux Claude Guibal et Eric Audra. Interview en longueur à retrouver ce soir dans le 18-20 de Fabienne Sintès. Des rues transformées en rivières, des vignes, les pieds dans l'eau. Dans Lyon, les habitants des vallées du Serein et de l'Armançon ne reconnaissent pas leur paysage. Les cours d'eau sont boursouflés par les crues, conséquence des fortes pluies de ces derniers jours. Pour ce qui est du Serein, en vigilance rouge, le pic de crue devrait atteindre la commune de Chablis en fin d'après-midi. En vallée de l'Armançon, en rouge également, le pic était annoncé pour la fin de matinée. Dans la ville de Tonnerre, 4500 habitants à l'est d'Auxerre, c'est là que vous vous trouvez, Ajra Mohamed, et force est de constater que l'eau continue de monter.
Oui, la première onde de crue, comme on dit, est arrivée un peu avant 11h ici à Tonnerre, où l'Armançon continue de grimper. Oui, je me trouve sur un petit pont juste derrière l'hôtel de ville et on la voit, cette rivière, son eau teintée d'une couleur marron qui grignote le sous-sol de certaines maisons construites sur ses rives. En temps normal, elle ne dépasse pas le mètre, sauf que là, on a déjà atteint les 2,50 m et on pourrait s'approcher des 3 mètres dans la soirée au moment du pic. Ce serait plus que le record enregistré en 2013. On était alors à 2,80 m. Alors, pour le moment, dans les rues de Tonnerre, pas de panique. Les habitants se promènent tranquillement sous le ciel bleu. Certains s'arrêtent pour observer cette lente montée de l'eau en attendant donc cette soirée tant redoutée. Au vu de ce qui s'est passé dans les villages en amont ces dernières heures, comme à Aisy-sur-Armançon, où là, l'eau a grimpé de 15 cm toutes les 20 minutes hier soir. C'est exceptionnel selon la préfecture de Lyon, qui appelle tous les habitants à suivre les consignes de sécurité. Pour le moment, aucun blessé à déplorer dans le département. Une quarantaine d'évacuations au total, aucune à Tonnerre, où la ville a tout de même ouvert un gymnase pour accueillir d'éventuels évacués ces prochaines heures.
Merci Ajra Mohamed, en direct de Tonnerre. Vigilance rouge également plus au sud, dans le département de Saône-et-Loire, autour de la rivière Arroux, près de Guignon. 36 communes concernées avec plusieurs routes départementales coupées. 4 autres départements, eux, sont en vigilance orange. Toujours pour les crues, la Côte d'Or, toujours en Bourgogne donc, mais aussi l'Aube, la Nièvre et la Gironde. Gironde où l'on apprend ce matin que le mois de mars a été le plus pluvieux dans la ville de Bordeaux depuis 18 ans. Les prévision météo complète avec Elodie Calac, c'est dans un gros quart d'heure. Sans surprise, c'est dans les collèges que la grève dans l'éducation nationale aujourd'hui est la plus suivie. Près de 15% des professeurs absents, contre 5% en primaire et 2% dans les lycées, ce sont les chiffres du ministère. Mouvement à l'appel des syndicats qui rejettent la mise en place des groupes de niveau à la rentrée prochaine, en français et en maths, en 6e et en 5e. Alors selon les calculs du ministère, pour appliquer cette réforme dans quelques mois, il faudra près de 1100 profs supplémentaires. La question, c'est où les trouver? Bonjour Arthur Fradin.
Bonjour à tous.
Les services des ressources humaines du ministère ont planché. Ils ont rassemblé leurs solutions dans une note. Certaines de ces solutions sont assez surprenantes.
Ah oui, puisque le ministère songe par exemple à rappeler des professeurs à la retraite, hein, recourir aux plus de 1000 profs de lettres et de maths partis ces derniers mois. Voilà ce qui est envisagé pour attirer, je cite, ce vivier peu enclin à se réinvestir. Des promesses de temps de travail limité, mais aussi des salaires attractifs pour ces groupes de niveau. On l'apprend dans cette note interne. Le ministère veut aussi puiser chez les professeurs des écoles primaires. Ils seraient amenés à intervenir en 6e et en 5e. Fausse bonne idée dans les deux cas pour Sophie Vénétité, la secrétaire générale du FSU, le premier syndicat du secondaire.
Je pense quand même notamment à nos collègues retraités qui ont dû travailler quelques mois de plus avec la réforme des retraites et à qui on dit maintenant, bah non, il va falloir revenir parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé la réforme à venir. Par ailleurs, pour nos collègues du premier degré, ça veut dire aussi qu'on va déshabiller quelque part le premier degré qui manque déjà beaucoup d'enseignants pour essayer de venir colmater les brèches dans le second degré, alors même que les métiers ne sont pas les mêmes.
Ouais, tout ça, c'est du bricolage selon la syndicaliste qui déplore le recours toujours plus nombreux aux contractuels, pas assez formés et trop précaire. Pour elle, le ministère met la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu résoudre la crise d'attractivité et régler la question salariale avant d'envisager la création de ces groupes de niveau.
Merci Arthur Fradin pour ces explications. Dans certains départements, la pénurie de professeurs est encore plus forte. C'est le cas en Seine-Saint-Denis, où il manque plus de 5000 postes selon l'intersyndicale. Tout établissement, tout niveau confondu. 12 communes de ce département mettent aujourd'hui l'État en demeure pour obtenir un plan d'urgence pour l'éducation. Comment réduire les déficits? Le débat continue d'agiter la majorité. Pas d'impôts supplémentaires, promet le Premier ministre Gabriel Attal, qui demande ce matin à des députés de lui faire des propositions d'ici le mois de juin sur la taxation des rentes. Les députés, les Républicains, eux, annoncent vouloir lancer une commission d'enquête sur la forte croissance de la dette. À l'Assemblée, où les écologistes ont décidément le plus grand mal à traiter le cas du député de Paris, Julien Bayou. Son ex-compagne l'accuse de violence psychologique. Elle a déposé plainte. Jusqu'ici, Julien Bayou disait s'être mis en retrait, mais il faisait toujours partie du groupe parlementaire. Attitude vivement critiquée en interne. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour.
Julien Bayou vient donc d'annoncer sa démission de son groupe et de son parti, mais pas de son mandat, hein, soyons clairs.
Oh, effectivement, Jérôme, hein, l'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, il a été de 2019 à 2022, a décidé de rendre sa carte, pas son mandat. Julien Bayou a envoyé un mail cette nuit à la patronne des Verts, Marine Tondelier, pour faire part de cette décision. La direction du parti explique que cette démission intervient car le bureau exécutif interne s'est réuni en urgence jeudi dernier pour acter le principe d'une enquête externe menée par un cabinet spécialiste des violences sexistes et sexuelles. Julien Bayou ne l'aurait pas supporté. Le député de Paris est accusé de violence psychologique par son ex-compagne. C'est la raison pour laquelle il s'était mis en retrait de son groupe à l'Assemblée sans être suspendu. Mais Marine Tondelier explique avoir reçu depuis de plusieurs nouveaux témoignages de comportements inadaptés. Un député écologiste estime, lui, qu'il n'a sans doute pas supporté la pression. Outre cette enquête, des dizaines de militants et élus écologistes ont lancé un appel à la grève militante après le vote des députés qui avaient donc refusé de suspendre Julien Bayou. Les contestataires ne voulaient plus militer pour la campagne de Marie Toussaint, la tête de liste pour les élections européennes. Pour l'instant, Julien Bayou et son équipe ne communiquent pas. A priori, il va donc rester député non inscrit à l'Assemblée.
Merci Claire Flochel pour ces informations en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Voilà qui va mettre de l'eau au moulin d'un débat qui n'en a pas besoin pour tourner. La place de l'ours dans les Pyrénées. L'ours réintroduit dans le massif il y a près de 30 ans avec des spécimens venus de Slovénie et qui s'y plaisent manifestement. L'Office français de la biodiversité donne aujourd'hui les chiffres du dernier recensement. Sandy Dauphin, 83 ours dénombrés l'an dernier, c'est un record.
Les ours Caramelita, Béret ou Sorita ont donné naissance à une nouvelle génération. En 2023, 16 oursons au total ont été détectés, c'est 3 de plus que l'année d'avant. Il n'y a jamais eu autant d'ours dans les Pyrénées depuis leur réintroduction dans les années 90, mais pour les associations de défense du plantigrade, le nombre est un indicateur insuffisant. Il y a trop de consanguinité, s'inquiète Alain Rennes de l'association Pays de l'Ours à Dette.
On a un trop petit nombre d'individus fondateurs de cette population qui se reproduisent entre eux. Le mâle Pyros, qui est le mâle ultra dominant, hein, plus de 85% des individus présents dans les Pyrénées sont des descendants de ce mâle qu'on a lâché en 1997. Donc le coefficient de consanguinité augmente, hein, mais il n'est pas encore au stade critique. Et c'est pour ça qu'il est important de réagir maintenant, c'est-à-dire d'apporter du sang neuf.
Les associations de défense de l'ours demandent de nouvelles réintroductions pour brasser la population. La dernière remonte à 2018, sujet sensible face à l'hostilité des éleveurs. En 2023, il y a eu 349 attaques de bétail, une augmentation de 5%, même si le bilan global d'animaux tués et blessés par l'ours est moins important que l'année d'avant.
Sandy Dauphin, c'est un long procès qui a débuté il y a près d'un mois devant le tribunal correctionnel de Paris, celui du déraillement mortel du TGV Est lors d'un test de la rame en survitesse. 11 morts et 42 blessés le 14 novembre 2015. La SNCF est jugée aux côtés de deux de ses filiales et de trois cheminots pour homicide et blessures involontaires. Long procès donc, mais dont nous suivons les moments clés et c'est le cas aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Jérôme.
Avec l'audition du salarié de la SNCF qui a encadré les pilotes dans la cabine.
Oui, Francis est d'abord ému aux larmes pour dire au tribunal que depuis cette journée cauchemardesque du 14 novembre 2015, il ne se passe pas un jour, pas une nuit, sans qu'il pense aux victimes et à leurs familles. Puis très vite, le cadre SNCF, qui en temps normal dirige une équipe de 70 conducteurs, reprend de l'assurance et il se positionne clairement. Ce jour-là, il encadrait les conducteurs dans la cabine, certes, mais il était lui-même sous les ordres du chef d'essai de la filiale Systra. « Mais vous pouviez refuser ?» demande la présidente. présente. Ah, ce n'est vraiment pas l'état d'esprit, sourit Francis, sinon on ne serait pas là. Car ce jour-là, justement, il n'est pas d'accord avec les choix de vitesse établis par Systra, bien trop élevés selon lui. Francis le signale, mais Systra n'en tient pas compte. Avec eux, on a l'impression qu'on peut tout faire. On me disait, ça a toujours été comme ça. Et puis voilà, moi je leur amenais des contraintes et ils les enlevaient. Avec Systra, c'est toujours la même chose, ils sont dans leur jardin. Mais vous gardiez quand même un œil sur le compteur de vitesse, tente la présidente. Ils ne voulaient pas qu'on le regarde, accuse le cadre SNCF. Il fallait continuer de rouler à 360.
Jean-Philippe Degnaud, en direct du tribunal correctionnel de Paris. Dans les Alpes de Haute-Provence, les recherches se poursuivent. Trois jours après la découverte d'ossements du petit Émile, disparu début juillet dans le hameau du Haut-Vernay. Cet après-midi, le procureur d'Aix-en-Provence, en charge de l'enquête, tiendra une conférence de presse. Ce sera la première depuis qu'il a été saisi de ce dossier en juillet dernier. De nouvelles opérations anti-drogue place nette. Ce matin, elles se sont déroulées à Nantes et à Toulouse. Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, elle vise, je vous le rappelle, à faire reculer les trafics, et notamment les trafics de cannabis. La France en est le premier consommateur en Europe, 6 millions de consommateurs dans notre pays, et France 5 diffuse ce soir un documentaire intitulé Cannabis, signé du réalisateur Mathieu Kassovitz, documentaire qui s'interroge sur la pertinence d'une dépénalisation en France et qui rappelle les dangers de cette drogue, Alexandra Hacoun.
Le cannabis, une plante psychotrope qui, en France, met à feu à sang des quartiers entiers.
Car si la France est l'un des pays les plus répressifs en la matière, elle est surtout championne d'Europe de la consommation. En s'appuyant sur ce paradoxe, Mathieu Kassovitz et son réalisateur Antoine Robin se sont lancés dans cette enquête qui s'attache d'abord à décortiquer le trafic tel que pratiqué en France, questionnant dealers, addictologues, policiers, consommateurs.
C'était quelque chose qui m'a quand même beaucoup détruit au niveau de ma scolarité, au niveau de ma santé mentale, ça n'a rien arrangé.
Mathieu Kassovitz.
Nous avons 6 millions de consommateurs en France quotidien. Est-ce que la répression fonctionne? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il ne faut pas changer? Est-ce qu'il ne faut pas plus accepter la réalité et la gérer d'une autre manière? Il faut qu'on se pose la question.
Le réalisateur de La Haye nous embarque ensuite vers des pays qui, eux, ont fait le choix de la dépénalisation, comme le Canada.
C'était très marrant. On allait dans une école, il y avait des jeunes de 17 ans qui n'ont pas accès aux produits parce que c'est à partir de 18 ans, mais qui peuvent avoir accès comme ils veulent. Ils nous ont dit, nous, fumer du cannabis, ça ne nous intéresse pas parce que comme c'est légal, c'est ringard.
Avec Mathieu Kassovitz, aussi à l'aise avec des dealers qu'avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Merci beaucoup de nous accueillir.
Non, merci pour ce travail.
Une incarnation décontractée et sympathique pour un documentaire qui, à force de vouloir tout aborder, nous perd un peu, mais elle mérite de poser sur la table et sans aucun tabou un vrai sujet de société.
Cannabis, 21h05 ce soir pour ce documentaire sur France 5 qui sera suivi d'un débat.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
C'est un sujet bien connu dans le rugby, mais encore tabou dans le football. Les commotions cérébrales dues à ces chocs nombreux, ce peut être tête contre tête ou choc de la tête avec le ballon. D'où l'importance de la prise de parole aujourd'hui dans le journal L'Équipe de l'ancien défenseur des Bleus, champion du monde en 2018, Raphaël Varane. Il témoigne, Nicolas Perronnet, des commotions subies tout au long de sa carrière, mais il réclame aussi des mesures.
Raphaël Varane s'appuie sur son propre exemple. Il assure avoir lui-même été victime de commotions cérébrales en plein match au cours de sa carrière plusieurs fois. Il détaille dans cet entretien l'un de ses chocs avec les Bleus. Coupe du Monde 2014 face au Nigeria, ballon en pleine tempe. Je termine le match, dit-il, en pilote automatique. Autre commotion, en 2020, cette fois avec Manchester United, des conséquences sur plusieurs jours, l'envie de se mettre des claques pour se réveiller. Cette prise de parole d'un joueur de haut niveau, en activité, est inédite. Le sujet très présent dans le rugby est peu abordé dans le football. Ça fait faible de dire qu'on est fatigué, qu'on a des migraines, de la fatigue oculaire, explique encore l'ancien défenseur de l'équipe de France, certain d'avoir abîmé son corps. Raphaël Varane appelle à une prise de conscience. Il se dit favorable à l'interdiction du jeu de tête dans tous les matchs d'enfants de moins de 12 ans. Une mesure expérimentée depuis 2 ans maintenant en Angleterre.
Alors, Raphaël Varane est suivi personnellement par un médecin du sport. Il s'agit de Philippe Malafosse, médecin au club de rugby de Montpellier et responsable de la cellule des neurosciences appliquées au sport. Son constat est clair, selon lui, le foot a un gros retard pour prévenir ces commotions. Les 3 minutes prévues par le règlement de la fédération pour permettre au staff médical d'intervenir sur le terrain, ces 3 minutes ne suffisent pas.
En fait, le football s'intéresse aux commotions dès lors qu'il y a eu un choc à la tête et un équivalent au moins de perte de connaissance. Quand le joueur reste sur le terrain sans bouger, tout le monde se précipite. Mais à la limite, c'est pas ça le diagnostic. Je veux dire, la commotion, il est déjà établi. S'il y a perte de connaissance, c'est un critère neurologique de niveau 1 qui inflige une sortie immédiate et définitive sans discussion. La grosse difficulté, c'est que 90% des commotions ne s'accompagnent pas justement de perte de connaissance. Et pour les mettre en évidence à la suite d'un choc, il faut prendre le temps d'examiner le joueur, de l'interroger. Dans le rugby, à titre d'exemple, nous avons 12 minutes pour faire sortir un joueur et l'évaluer dans une salle commotion qui est en bordure du terrain, à proximité. Et c'est au terme de ces 12 minutes qu'il est décidé si le joueur est renvoyé sur l'aire de jeu ou s'il est soustrait de façon définitive. Mais en 3 minutes sur le terrain, dans le football, c'est très compliqué.
Philippe Malafosse, le médecin de Raphaël Varane, ce soir sur le terrain. Première demi-finale de la Coupe de France de football Lyon-Valenciennes. 20h45, les Valenciennois tenteront de revenir en finale de la Coupe de France pour la première fois depuis 1951. Difficile pour une femme née en Guadeloupe dans les années 30 de suivre des études prestigieuses et de devenir une grande écrivaine. Ce fut pourtant le destin de Maryse Condé, l'une des voix majeures de la littérature francophone et qui s'est éteinte la nuit dernière à l'âge de 90 ans. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Maryse Condé regardait bien au-delà de la France où elle n'a pas eu de véritable reconnaissance.
En tout cas, peut-être pas toute la reconnaissance qu'elle méritait parce qu'elle a beaucoup vécu à l'étranger. C'est à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, que tout a commencé pour elle. À la maison, sa mère, institutrice, interdisait le créole. Il fallait parler français. Elle grandit sans avoir entendu parler de l'esclavage ou de l'Afrique. Elle le dira plus tard, c'est en arrivant à Paris pour étudier qu'elle a pris conscience qu'elle était noire. C'est aussi l'âge des premières amours. Elle tombe enceinte d'un journaliste haïtien qui l'abandonne dès l'annonce de sa grossesse, ce qui l'empêchera de faire normal sup. Elle l'a raconté dans son autobiographie « La vie sans phare » et au micro de Laure Adler en 2012.
Il est devenu un homme politique haïtien très important, considéré comme un héros, comme un modèle. Et la question que je pose à son sujet, est-ce qu'un homme qui a été dégueulasse pour employer un voulier avec une femme peut être considéré comme un héros, un modèle, un martyr?
Maryse Condé devient adulte en pleine effervescence post-coloniale. Elle découvre alors les travaux du psychiatre martiniquais Frantz Fanon, dont elle se réclame. Il n'y a pas, selon elle, d'identité commune à tous les Noirs.
Les Noirs, finalement, ne sont noirs que lorsqu'ils sont en face des Blancs. Évidemment, c'est très dur d'arriver à cette vérité. Ça prend du temps, c'est douloureux, c'est un peu décevant, mais il faut y arriver si on veut un jour arriver à la liberté.
Son premier roman, à l'âge de 45 ans, est un best-seller. Ségou, une saga historique sur le déclin de l'Empire Bambara. D'autres de ses livres prennent racine dans la tradition orale. Par exemple, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Ces dernières années, son nom circulait comme nobélisable.
Merci Ilana Mor-Youssef. On a écouté un extrait d'entretien accordé par Maryse Condé à France Inter. Vous retrouvez l'intégralité de ces entretiens, évidemment, sur notre site, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, nous sommes avec le procureur de Nanterre. Il est en charge du pôle des affaires non élucidées, Pascal Prache. Avec lui, on parle des appels à témoins qu'il lance à partir d'aujourd'hui pour faire avancer des enquêtes. J'attends vos questions sur ce point, mais aussi sur la résolution des cold cases. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec les Lorrains qui travaillent au Luxembourg. Une vie de frontalier. À 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jean-Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
De Coutances dans la Manche à Troyes dans l'Aube, en passant par Istres dans les Bouches-du-Rhône, on s'intéresse au tout-tourisme pour voyager avec son chien, une tendance de moins en moins niche, Jérôme.
Oui, je crois que Frédéric a compris cette fois. Faudra compter le nombre de jeux de mots dans cette chronique, je pense qu'on va battre des records aujourd'hui. Avec vous, Frédéric, des patineurs.
J'ai pas de jeu de mots.
Non.
Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, quintuple champion du monde et champion olympique de danse sur glace. Ils nous parleront d'une chanson qui leur a porté chance, Made to Love de John Legend.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Et chaque fois mourir un peu. Le nouveau roman de Karine Gibel vient de paraître.
Grégory, infirmier sur les terrains de guerre, monte au front sans armes, ni gilet pare-balles. Chaque victime sauvée est une victoire sur la folie des hommes. Mais il prend de plus en plus de risques, jusqu'à celui de trop. Et chaque fois mourir un peu, de Karine Giebel, un roman qui vous marquera à jamais, aux éditions Récamier.
Écoutez bien, le bassin d'Arcachon en haute saison. Et maintenant, le bassin d'Arcachon le reste de l'année. Vous avez entendu la différence ? Non ? Nous non plus.
Bassin d'Arcachon, un monde à part, un monde à partager.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Alors, le temps est plus ensoleillé, mais il y a de nouvelles pluies sur le nord-ouest.
Oui, alors attention aussi, des crues importantes se poursuivent sur la Bourgogne, sur la Gironde. Lyon et la Saône-et-Loire sont en vigilance rouge pour les crues majeures de l'Armançon et de l'Arroux, donc soyez vraiment extrêmement prudents. Entre la Bretagne, le Val-de-Loire et la Normandie, en effet, c'est pluvieux. Des pluies plus marquées sur la pointe et le sud de la Bretagne, avec du vent jusqu'à 60 à 80 km à l'heure. Les nuages vont devenir plus nombreux aussi en région parisienne au fil des heures, avec quelques pluies. De l'Aquitaine et de la Vendée vers le centre-val de Loire, le nord et le nord-est, nuages et éclaircies au programme avec quelques averses encore possibles. Plus au sud, c'est du soleil. Les températures ne bougent pas beaucoup, elles sont plus ou moins de saison avec 12 à 16 degrés au nord, 17 à 21 au sud. Cette nuit, les pluies qui arrivent par l'ouest vont traverser le pays. On les retrouvera demain dans l'est. Et puis un ciel plus changeant s'installera ensuite avec des éclaircies mais encore des averses.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
Bonjour Pascal Prache.
Bonjour Monsieur Cadet.
Vous êtes le procureur de la République de Nanterre, le parquet de Nanterre qui est en charge de ce qu'on appelle nous communément le pôle cold case, ce que vous appelez le pôle des crimes sériels ou non élucidés, donc des affaires complexes, meurtres, viols, enlèvements, séquestrations avec des faits remontant à au moins 18 mois et qui n'ont pas été résolus. Voilà les dossiers sur lesquels vous travaillez depuis 2 ans maintenant, puisque le pôle a été créé début mars 2022. On va en parler ensemble et avec les auditeurs qui peuvent vous interroger, 01 45 24 7000, où les auditeurs peuvent aussi passer via l'application France Inter. Pascal Prache, je voudrais qu'on commence par votre actualité du jour. Vous avez décidé de lancer chaque mois, en vidéo, un appel à témoins au sujet d'une affaire non élucidée. Et vous commencez aujourd'hui avec cet appel qui concerne 3 viols commis en 2002 et 2011. Un même mode opératoire, un homme armé d'un couteau qui agressait des femmes dans des lieux publics. Voilà le message que vous diffusez.
Je suis Pascal Prache, procureur de la République au tribunal judiciaire de Nanterre.
Je suis commandant de police au service de police judiciaire de Bayonne. Alors le 19 décembre 2011, aux alentours de 8h15, une femme promenait son chien au lac de Christus à Saint-Paul-et-Dax. Elle a été accostée par un individu. Ce dernier lui a demandé une cigarette, a sorti un couteau, l'a menacée et a fini par la violer. 10 jours auparavant, le 9 décembre 2011, à Gujan-Mestras, une femme regagnait son véhicule sur le parking de la gare de la Hume. Un individu est rentré dans ce véhicule, l'a menacé également avec un couteau, a procédé à des attouchements sexuels sur sa personne et l'a violée. Par rapport à l'ADN, on est remonté sur un fait beaucoup plus ancien, de 2002.
La saisine du pôle et de 2 services d'enquête spécialisés a pour objectif de relancer les investigations en vue de recueillir auprès des personnes présentes à Melun le 14 février 2002, à la gare de Gujan-Mestras le 9 décembre 2011, ou encore près du lac de Christus à Saint-Paul-les-Dax le 19 décembre 2011, toute information qui pourrait permettre d'élucider ces crimes sexuels, de retracer l'itinéraire de l'auteur et d'identifier d'autres victimes.
Voilà, on sait de quoi on parle. Capsule vidéo baptisée « Enquête d'indices » et relayée, diffusée par les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Pascal Prache, quel est votre objectif ?
Monsieur Cadet, je crois que l'objectif, c'est avant tout d'essayer de progresser sur ces enquêtes qui sont depuis bien longtemps, pour certaines d'entre elles, ou menées ou clôturées. Et l'objectif, avec d'autres actes d'enquête qui sont déjà en cours sur ces procédures et qui, notamment, ont permis déjà d'établir parfois des rapprochements, eh bien, de solliciter nos concitoyens, en espérant que peut-être des pistes nouvelles vont émerger, peut-être parfois d'autres éléments d'information qui vont nous permettre, au contraire, d'écarter certaines pistes, mais en tout cas de cause, de progresser sur des affaires, et typiquement celle que nous évoquons ce matin, une affaire ancienne, qui est tout à fait particulière, puisqu'on a un écart de temps très significatif entre les faits. On a des faits de 2002, Absolument, des faits de 2002, des faits de 2011. Et on a, de ce point de vue-là, à l'évidence, un critère de sérialité. Trois faits qui sont reliés entre eux par le même ADN. Et donc l'objectif, avec cet appel à témoins qui est lancé ce matin, et qui bien sûr a vocation, vous l'avez rappelé, à associer les enquêteurs, les magistrats, et qui est porté par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, l'objectif, c'est encore une fois d'essayer d'apporter une réponse aux familles des victimes, et aux victimes elles-mêmes, qui sont dans l'attente depuis parfois plusieurs décennies.
Mais ça veut dire que vous espérez, vous avez cité le nom d'une commune, Gujan-Mestras, on est en Gironde. Si j'y habite, par exemple, je peux me dire, tiens, 2011, où est-ce que j'étais? Est-ce que peut-être je suis cette personne qui a assisté à quelque chose? À l'époque, j'ai vu quelque chose, je n'ai pas réagi, mais peut-être aujourd'hui, en voyant cette vidéo, je vais avoir envie de solliciter les enquêteurs.
C'est notre objectif. Et sur des dossiers, et c'est là la complexité, sur des dossiers qui pour la plupart sont anciens. Nous commençons ce matin avec ce dossier relatif à 3 viols sériels. 2 autres capsules sont en cours de préparation d'ailleurs, et qui portent aussi sur des faits qui peuvent être marqués par la sérialité. Et vraiment l'objectif, c'est effectivement d'essayer de reconstituer un certain nombre d'éléments et de faire en sorte que nous puissions progresser en plus de l'ensemble des autres pistes sur lesquelles les enquêteurs travaillent d'ores et déjà. Et sachant que bien sûr, sur ces procédures-là, nous avons plusieurs types de services qui peuvent être saisis, des services bien sûr de gendarmerie, de police, des services centraux et des services qui également localement travaillent sur ces dossiers depuis plusieurs années.
Vous l'avez dit Pascal Prage, vous répondez à la détresse des familles des victimes, mais il y a énormément d'affaires non élucidées, donc la pression des familles des victimes elle est très importante. Comment est-ce que vous sélectionnez les affaires? Pourquoi avoir choisi celle-ci et pas une autre?
Je pense que la sélection déjà intervient au stade de ce que l'on considère comme devant être attribué au pôle en termes de procédure. Le premier travail qui est notamment mené par le parquet de Nanterre, c'est d'identifier sur le territoire national, en lien avec les autres parquets, les magistrats instructeurs, avec les familles, avec les avocats, les procédures qui, dans l'absolu, pourraient rejoindre le pôle. Aujourd'hui, et c'est un chiffre qui évolue toutes les semaines, aujourd'hui, les enquêteurs et les magistrats du parquet travaillent, prennent connaissance de 397 procédures sur le territoire national. Et sur ces 397 procédures, 105 d'entre elles ont réellement été attribuées au pôle. Elles sont suivies soit par des juges d'instruction, soit par des magistrats du parquet. Et donc l'étape suivante, et c'est ce que nous avons essayé de faire sur l'appel à témoins de ce matin, c'est d'identifier au sein de ces 105 procédures, quelles procédures justifient en ce moment particulièrement d'un appel à témoins.
Et là, dans le cas qui nous intéresse, qu'est-ce qui déclenche votre prise de décision?
Alors la prise de décision, elle a résulté d'échanges vraiment très étroits avec les enquêteurs pour déterminer si c'était le bon moment, si c'était le bon dossier. Et au regard des éléments ainsi recueillis, c'est ce que nous avons décidé, sachant que, à l'évidence, d'autres dossiers auront vocation à faire l'objet aussi de ces appels à témoins. Au moins 2 autres capsules sont en cours de finalisation. Et nous allons voir. Nous espérons, bien sûr, que nous allons obtenir des résultats significatifs sur ces enquêtes. Et l'objectif, c'est de pouvoir s'inscrire dans la durée, parce que ces appels à témoins ont une spécificité. Au-delà simplement de leur présentation, ces appels à témoins qui vont être diffusés par notamment le ministère de l'Intérieur et largement sur les réseaux sociaux, vont se retrouver dans une situation où ils vont pouvoir demeurer longtemps accessible. Et donc, on n'est pas sur un appel à témoins lancé à un instant T qui peut-être, à T plus 1, aurait été oublié.
Vous aviez, il y a quelques années, c'était en 2021, travaillé avec la chaîne M6 dans le cadre de l'émission Appel à témoins. Les téléspectateurs susceptibles d'avoir des informations sur une affaire étaient invités à appeler. Ce sont des gendarmes et des policiers qui répondaient à l'époque. Pourquoi est-ce que cette émission s'est arrêtée? C'était un peu le même principe finalement.
Ça, c'est un autre sujet. Je crois que l'objectif, en l'espèce, avec notamment enquête d'indices, c'est que nous ayons une production qui soit une production assurée par le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur.
Là, vous êtes autonome, alors que dans le cas que j'évoquais, vous travaillez avec une chaîne de télévision, un groupe de télévision, en l'occurrence M6.
Et au-delà de cela, nonobstant la qualité des émissions qui peuvent avoir lieu,
oui.
Nonobstant ces éléments-là, le point essentiel, c'est que nous sommes confrontés à un acte d'enquête. C'est un acte d'enquête. L'appel à témoins qui a été lancé ce matin est un acte d'enquête qui va figurer en procédure, et je pense que c'est important qu'il y ait un positionnement institutionnel du ministère de la Justice, du parquet de Nanterre et du ministère de l'Intérieur sur ces questions.
397 procédures identifiées, hein, c'est cela par le pôle Pascal Prage. Combien en cours d'instruction à l'heure où l'on parle?
Donc 105 procédures qui sont suivies, 16 en enquête préliminaire, les autres en information judiciaire, avec de surcroît des procédures très particulières qui sont ce qu'on appelle les parcours de vie. Les parcours de vie, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur un fait qui a pu donner lieu à des investigations forcément sur la personnalité. On va partir de la personnalité de quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis des crimes sériels ou qui a été condamné pour cela.
Michel de façon... Fourniret, par exemple, pour citer par exemple. L'un des tueurs en série célèbre en France.
Absolument. Et l'idée, c'est de regarder leur parcours de vie afin de déterminer s'il peut y avoir une connexion avec des faits non élucidés à tel ou tel endroit du territoire. Et donc, là aussi, c'est un outil juridique extrêmement précieux qui ne peut être déployé qu'au pôle, que ce soit sous le contrôle d'un magistrat instructeur ou d'un magistrat du parquet, et que nous voulons développer dans les mois à venir.
On a le volume du nombre de procédures suivies et en cours d'instruction, d'où la question de José qui nous appelle de Villeneuve-Loubet, Alpes-Maritimes. Bonjour José.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Quelle est votre question pour Pascal Prache?
Bonjour monsieur le procureur et mes respects.
Bonjour monsieur.
Je voulais savoir quels moyens vous disposez au niveau juge d'instruction, greffier, fonctionnaire de police, pour cette tâche énorme dont vous avez la charge aujourd'hui.
Merci à vous José pour cette question. Tâche énorme, entre 800 et 900 homicides chaque année en France, entre 80 et 85% sont résolus. Pour donner une idée de la masse d'affaires que ça peut représenter, Pascal Prache.
Aujourd'hui, le pôle est composé de 3 magistrats instructeurs, de 2 parquetiers qui sont par ailleurs soutenus par le procureur adjoint. Et avec l'ensemble de ces magistrats, nous travaillons très étroitement avec notamment l'OCRVP, qui est les services centraux, ou la division Diane de la gendarmerie, ou la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris, et bien sûr l'ensemble des services d'enquête sur le territoire national qui peuvent être co-saisis. C'est dire qu'en fait, nous sommes amenés nécessairement à sélectionner les dossiers pour lesquels, et c'est ça le plus important, nous considérons que le pôle peut apporter une plus-value.
Ça fait combien de dossiers par juge d'instruction, Pascal Prache?
Aujourd'hui, on est à peu près sur une trentaine de dossiers par cabinet d'instruction. Je prendrai simplement un exemple par rapport à des cabinets d'instruction plus généralistes à Nanterre. Nous avons 4 fois moins potentiellement de dossiers dans les cabinets d'instruction, des juges d'instruction du pôle que dans un cabinet généraliste. Ce qui signifie...
Parce que ce sont des affaires beaucoup plus complexes.
Parce que ce sont des affaires plus complexes, d'autant plus qu'elles n'ont pas été élucidées, c'est la démonstration. Et l'objectif, c'est de permettre aux magistrats instructeurs de dégager du temps pour vraiment s'imprégner et progresser sur ces dossiers.
Donc avec un 4e juge d'instruction l'an prochain, ce sont les annonces du ministre de la Justice il y a quelques semaines, Éric Dupond-Moretti, ça veut dire une trentaine d'affaires que vous pourrez suivre en plus.
Supplémentaire, absolument.
Si je fais le calcul, comment travaillent vos juges d'instruction? Ils reprennent le dossier à zéro, comme si vous-même vous ouvriez ou moi j'ouvrais un dossier. On relie toutes les pièces d'enquête qui ont déjà été effectuées, c'est ça le travail?
C'est exactement ça, Monsieur Cadet. C'est-à-dire que le premier travail, c'est de reprendre l'intégralité du dossier afin de vérifier si toutes les pistes qui ont été ouvertes ont vraiment été menées à terme, en tenant compte de surcroît des nouvelles capacités techniques que nous avons, et je pense par exemple à l'exploitation de l'ADN, et vérifier si d'autres pistes ne peuvent pas prospérer, peut-être aussi au regard d'éléments d'information dont l'institution judiciaire a eu connaissance après la clôture de ces procédures, lorsqu'elles avaient été classées ou fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. Donc effectivement, le premier travail, c'est la relecture du dossier, le deuxième travail, c'est la réexploitation des scellés, et on l'a vu sur des affaires récentes. C'est un enjeu qui est absolument décisif, qui en appelle...
On refait des analyses qui ont déjà été faites il y a quelques années, avec des connaissances supplémentaires?
C'est exactement cela, et d'où l'intérêt, bien sûr, d'assurer une véritable préservation des scellés criminels.
Est-ce qu'il existe aujourd'hui une base de données centralisée où on aurait l'ensemble des condamnations, ou l'ensemble des instructions qui ont été menées, ou des enquêtes qui ont pu aboutir à un non-lieu? Enfin, une masse comme ça, on aurait toutes les enquêtes en tapant un mot-clé, une ville, une date, une marque de voiture, je ne sais, un élément concret.
C'est exactement cela, un des objectifs du pôle, la création d'une mémoire criminelle. Aujourd'hui, on dispose de quelques outils qui sont épars et sur lesquels il est nécessaire d'ailleurs de progresser en termes de préservation des données qui ont pu exister. Mais je crois que l'objectif qui est partagé par tous, et des travaux ont déjà été lancés notamment au sein du ministère de la Justice sur ce point, c'est de créer cette mémoire criminelle qui a vocation, et en tout cas on l'espère, à terme, à pouvoir mettre en évidence des problématiques de sérialité et qui pourra servir non seulement au pôle, sans doute, et c'est ça l'objectif, mais aussi à l'ensemble des juridictions.
Question d'Odile de La Rochelle, pour vous Pascal Prache, avez-vous déjà résolu des enquêtes depuis la création de ce pôle il y a un peu plus de 2 ans?
Alors en l'espèce, Il y a un point qui me paraît important, c'est d'abord rappeler que les enquêtes ne sont pas achevées et que donc le principe de la présomption d'innocence prévaut. Mais sur, ne serait-ce que sur l'année dernière, il y a au moins un dossier où le juge d'instruction a pu progresser significativement en termes d'élucidation avec la mise en cause d'un individu qui a été interpellé, qui a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il y a une autre procédure en enquête préliminaire qui était là aussi une procédure qui avait fait l'objet d'une clôture, qui a été reprise et qui entraînait là également une interpellation, une mise en examen, un placement en détention provisoire. Bref, les choses avancent, c'est notre objectif commun évidemment, sur des dossiers, vous l'avez rappelé, qui par définition sont complexes et anciens.
Ce sont des sujets qui évidemment passionnent beaucoup d'auditeurs, les cold cases et leurs résolutions. C'est le cas de Rudy. Bonjour Rudy.
Bonjour Monsieur Cadet, Monsieur le procureur, bonjour.
Vous nous
bonjour,
appelez monsieur. De Vendée, nous vous écoutons Rudy.
Oui, je me posais la question parce que moi, je suis effectivement passionné de faits divers et j'en écoute beaucoup sur les podcasts ou sur les réseaux sociaux. Et je vois assez rarement des appels à témoins sur ces plateformes-là par rapport à ça. Et je pense qu'on est beaucoup de Français à être très passionnés par ça.
Oui.
Et je me demandais si vraiment les réseaux sociaux étaient beaucoup utilisés ou pas. Et le côté officiel avec le ministère de la Justice, de l'Intérieur, est-ce que ça peut pas faire peur à certaines personnes qui n'osent pas parler du coup?
Merci Rudy pour cette question. Pascal Prache.
Nous verrons en tout état de cause les éléments qui permettent de recueillir ces témoignages sont faits de façon à quand même rassurer, me semble-t-il, nos concitoyens. Mais je crois que nous ferons bien sûr un bilan de cet outil qui a été déployé. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La diffusion très large, d'une part, le fait que ça s'inscrive dans le temps, dans la durée, et que donc ce ne soit pas des appels à témoins qui puissent être facilement perdus de vue, et aussi, soyons clairs, une présentation qui a vocation peut-être à susciter plus d'intérêt. L'objectif, quel est-il ? C'est d'avancer dans l'élucidation, on essaye de s'en donner les moyens.
Avec un format vidéo qui est peut-être plus propice à cela que du texte, par exemple, qu'on connaît dans des appels à témoins peut-être un peu plus traditionnels. Merci à vous, Pascal Prache, d'avoir accepté l'invitation de ce 13-14, procureur de la République de Nanterre. 13h45 sur Inter. Notre feuilleton, nous sommes toute cette semaine entre la Moselle et le Luxembourg avec les frontaliers qui tous les jours partent travailler au Grand-Duché. Ils sont 120 000 au total en Lorraine. Alors beaucoup résident dans les communes qui se trouvent le long de la frontière. C'est le cas d'Aumesse, 2350 habitants, et cela fait augmenter les prix de l'immobilier. En voiture avec notre reporter Manon Derdevé.
Nous n'avons pas d'argent mais on a le cœur sympathique. Gilles Destremont, maire d'Aumesse depuis 2009, j'ai 52 ans, ma profession c'est infirmier libéral.
Depuis le début de votre mandat et maintenant, Aumesse a gagné combien ?
La population augmente, tout doucement, on reprend de la population. Une bonne centaine d'habitants quand même, c'est pas rien, hein, c'est pas rien. On a vécu les années 80 avec la perte de population énorme, fermeture des mines et de la sidérurgie, où beaucoup de populations de cette époque-là, qui étaient les populations travailleuses, sont partis d'Aumesse et ont été travaillés ailleurs, donc il y a eu un exode important. Et là, on est en train de retrouver de la population. La seule chose, c'est que ce ne sont pas des gens originaires d'Aumesse, ce sont des gens qui arrivent pour la première fois sur Aumesse.
C'est des gens qui se font construire des nouvelles maisons. Là, vous nous emmenez où ?
Sur un lotissement qui s'est construit il y a quelques années. Effectivement, il y a des nouveaux lotissements, sachant quand même qu'actuellement, il y a un gros souci. C'est la pression foncière, le prix des tarifs fonciers qui sont très, très importants. L'équivalent de grandes villes de notre région, genre Metz ou Nancy.
Donc là, on est juste en face de l'ancienne mine. Et alors là, c'est le nouveau quartier.
Là, c'est un nouveau quartier, effectivement. Donc aujourd'hui, les deux derniers projets qui ont été faits sur Metz, ce sont des petites maisons avec très peu d'art à côté des maisons, mais par contre beaucoup d'appartements.
Tous les gens qui habitent ici, c'est des transfrontaliers.
Bah écoutez, vu le tarif à la fois de la construction et des loyers, ça ne peut être que des transfrontaliers, un minimum un dans le couple, voire deux, quoi.
Parce que là, par exemple, le prix au mètre carré ?
En moyenne, le prix viabilisé, c'est 20 000, 25 000, et ça continue encore à monter. C'est des maisons à 400 000, 500 000 euros, quoi. Effectivement, avec des salaires, je dis d'autochtones, c'est comme ça qu'on les appelle ici, vous n'arrivez pas seul, même accompagné à deux, de pouvoir vous payer quelque chose qui vous appartienne sur nos territoires. Il y a deux tensions. Il y a la tension des cerveaux qui passent au Luxembourg. C'est-à-dire que toutes les compétences intellectuelles sont absorbées par la frontière et par le Luxembourg. Et la deuxième chose, c'est qu'on se retrouve effectivement avec des populations autochtones qui n'ont ni les moyens, n'ont pas forcément les compétences pour traverser la frontière. Et donc, c'est en difficulté pour se loger ici et pour effectivement habiter sur nos territoires. nous traversons la ville en journée. Alors, c'est une ville qui est mixte, hein, autant d'anciens que de nouveaux, mais vous voyez, elle est relativement peu vivante la journée.
Là, il n'y a personne dans les rues.
Voilà, vous avez beaucoup plus d'anciens ou de retraités. Par contre, quand vous vous retrouvez le soir, vous avez beaucoup de voitures parce que beaucoup de frontaliers rentrent dans leur maison, rentrent chez eux, quoi.
Et le matin très tôt, à 5h du matin, ça commence.
Voilà, énormément de voitures. Sur Aumesse, prenons un exemple, nous avons environ 22 000 voitures jour. C'est un balai incessant, c'est énorme. Il y en a 7 de maisons dans cette impasse et vous avez à peu près une trentaine d'appartements. C'est généralement du haut standing, c'est destiné aux frontaliers. Ça m'inquiète tout simplement parce que des services ne peuvent plus être rendus. On a une absence de compétences. On perd une partie de la population qui est fidèle dans nos communes. Généralement, les anciens qui ont 75, 80 ans, 90 ans ne voient pas leur famille ou très peu parce qu'ils sont pris toute la journée, toute la semaine. Et vous n'avez pas les services qui peuvent aider les gens en journée. Ça disparaît. Nous n'avons pas envie de venir des villes dortoirs transfrontalières.
Entre Lorraine et Luxembourg, feuilleton signé Manon Derdevet, réalisation Stéphane Ronxin, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France. À 13h50, le mardi, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, vous nous parlez de ce que vous appelez le tout tourisme, il est donc question de chiens.
Et je vous emmène, Jérôme, à Coutances dans la Manche. Hein, là. La commune défend en effet le tout tourisme. Hein. Comprenez, une vraie hospitalité pour les chiens en vacances. Ça paraît logique, c'est le meilleur ami de l'homme, un dicton à Ouest France dans l'un des 6 hôtels partenaires. Alors, au sein des offices de tourisme voisins, les toutous bars se multiplient. Hein. C'est une petite gamelle d'eau, seulement de l'eau, car nous n'avons pas de licence 4. Sourit Valérie Lecomte, hein, présidente de Coutances Tourisme.
Mais le label tout tourisme, c'est plus que ça.
Oui, hein, c'est les offices de tourisme labellisés proposent aussi un guide papier spécifique qui recense les visites et circuits qu'on peut faire avec son chien, notamment les plages les autorisant avec ou sans laisse, mais aussi les logements et restaurants accueillants ou encore les salons de toilettage, les magasins spécialisés et les pensions canines. Et chaque toutou a droit à un pack de bienvenue avec un sac de propreté pour les crottes, mais aussi une friandise et un magazine 30 millions d'amis pour les chiens les plus cultivés ou plutôt pour leur maître.
Et c'est un tourisme qui est en plein développement.
Oui, exact. Le label est né en 2007 à l'office de tourisme de Troyes. Ici, dit-on, le tout tourisme, c'est une wafère de chiens. Vous l'avez, Jérôme,
Bien sûr.
La wafère.
Oui, oui, wafère, c'est
La préfecture
c'est
de l'Aube.
Du chien, finalement.
Exactement. C'est ça. Dans la préfecture de l'Aube, on peut effectuer un toutou tour de la ville.
Alors, oui, aussi, oui, bien sûr.
Sur place, j'ai appelé Sandrine Martin, une des référentes nationales du label. La France compte, dit-elle, une cinquantaine de destinations partenaires, mais j'ai des demandes tous les jours. On sent un regain d'intérêt pour les vacances avec son chien. Münster dans les Vosges, Istres dans les Bouches-du-Rhône, Cordon en Haute-Savoie. Presque toutes les régions sont concernées, mais on observe des zones vides dans le Massif central et le sud-ouest. Un monsieur m'a dit qu'il voulait faire toutes les destinations comme un itinéraire tout tourisme, se réjouit Sandrine Mertens.
Qui a tenu, Cyril, à vous faire une précision importante?
Oui, le label tout tourisme ne consiste pas à lister les établissements qui acceptent les chiens, mais bien qui les accueillent. Exemple très poussé à Troyes, un hôtelier demande toujours le nom du toutou au moment de la réservation, mais aussi sa race. Ainsi, il prépare un petit kit personnalisé qui comprend un jouet et une friandise adaptée à la taille de l'animal.
Et ce label vise aussi à lutter contre les nombreux abandons d'animaux.
D'abord, précisons, Jérôme, que ce label s'adresse principalement aux chiens, même si Sandrine Martin me confie avoir eu affaire, hein, pas ou affaire, une fois à un chat. Plus sérieusement, on dit parfois que la France est le premier pays d'abandon des animaux. C'est impossible à vérifier. N'empêche, beaucoup de nos amis les bêtes sont laissés de côté par leur maître. En 2023, la SPA a accueilli dans ses refuges près de 45 000 animaux, dont 28 000 chats et 13 000 chiens. Un chiffre en hausse de 1,5% sur un an, qui atteint presque que le record de 2019. En parallèle, l'association, hein, qui déplore aussi une hausse des maltraitances, a pu faire adopter 40 000 animaux. C'est en baisse. En tout cas, l'été reste la période où les abandons sont les plus nombreuses. Parmi les solutions, des pensions spécialisées ou des sites qui proposent des gardes d'animaux pendant ces congés, même si votre animal, c'est certain, sera sans doute plus heureux grâce au tout tourisme de partir avec vous en vacances.
Merci Cyril Petit. Vous connaissez le département préféré des chiens pour partir en vacances ? C'est le Calvados. Voilà, je vous laisse méditer sur cette... vous appréciez. De C'est la France à C'est une chanson, pas de commentaires, Pommier. Ce sont deux grands champions que l'on retrouve à votre micro, Frédéric, aujourd'hui. Les patineurs Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron.
5 fois champion du monde de danse sur glace, 5 fois champion d'Europe et médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'hiver en 2022. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron patinent ensemble depuis plus de 20 ans. Ils sont cette année les ambassadeurs du spectacle Holiday on Ice. Et je leur ai d'abord demandé quelle était leur relation à la musique.
Déjà, pour notre sport, c'est super important, en fait, parce que la musique qu'on choisit, c'est ça qui va déterminer la chorégraphie qu'on fait. C'est une musique qu'on va entendre tous les jours, tous les jours, tous les jours à l'entraînement aussi. Donc, il faut qu'on l'aime. Il faut qu'elle nous inspire. Et puis, dans nos vies, on écoute beaucoup de musique. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ça fait partie de notre quotidien.
Et vous vous faites découvrir des choses l'un à l'autre ?
Je pense, oui. En tout cas, pour choisir des programmes, on a des envies et des goûts qui se rejoignent souvent assez bien. Et dans ces périodes-là de recherche musicale, c'est vrai qu'on se rejoint souvent sur des choses un peu instinctivement comme ça.
Vous aimez quoi comme musique ?
Ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les musiques appellent un mouvement. Et quand on danse, je crois qu'on ne peut pas ne pas être connecté à la musique. Mmh. Bon, on peut danser dans du silence, évidemment, mais... La musique dicte ce qu'on a envie de créer avec notre corps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de toujours se poser la question comment j'ai envie de bouger sur cette musique? Qu'est-ce que cette musique me donne envie de faire avec mon corps?
Donc, on passe beaucoup de temps à écouter des musiques, à faire des recherches, parce que des fois, on a des idées de musique et puis finalement, on danse dessus, on se rend compte que nos corps interagissent pas nécessairement naturellement avec. C'est quand même un processus qui est très, très important et ça va ensemble, quoi. In here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh, I've never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved, I never loved, never loved someone like this. All I know is
et c'est une chanson de l'artiste américain John Legend qu'ont choisi Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Frédéric, son titre « Made to Love ».
Une chanson sur laquelle ils ont réalisé l'une des performances qui leur a permis d'être sacré champion olympique il y a 2 ans en Chine. Pour ce programme-là, ils avaient décidé de faire du walking, une danse de rue apparue à Los Angeles dans les années 1970.
Quelques années avant les Jeux, on voulait déjà patiner dessus. Des fois, ça arrive comme ça, il y a des musiques qui arrivent un peu dans nos vies. On veut patiner dessus, mais finalement, voilà, c'est pas l'année, c'est pas le temps. Et puis, quand on préparait donc les Jeux Olympiques, on a ressorti un peu cette chanson. Et là, ça a fonctionné avec ce qu'on voulait faire. En fait, cette année-là, le thème du programme court, c'était danse urbaine, donc musique moderne, etc. Et la musique collait parfaitement au style de danse qu'on voulait explorer. Et donc, ça a été un alliage parfait.
À la base, on voulait faire une rumba sur cette, sur cette musique-là, parce que ça aurait presque pu marcher, ouais. Mais ça correspondait pas tout à fait à ce style de danse-là. Et là, il y avait quelque chose d'un peu revendicateur pour l'amour. Bon, certains peuvent trouver ça cliché comme message, mais ça nous semblait important aussi de raccrocher un style de danse avec un programme, avec une histoire et un peu un message derrière.
Ils sont au-dessus du lot! Sur la glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui nous livrent à nouveau la magnifique performance.
Cette chanson raconte quoi ?
Dans le fond, je pense que ça raconte qu'on est fait pour s'aimer.
C'est comme un message de paix, un peu d'amour, etc. Et au-delà du rythme, de la mélodie, etc., qui nous plaisait, c'était que le message justement du walking, c'était l'acceptation, c'était revendiquer qui on est. Et on trouvait que les paroles de cette chanson collaient parfaitement au message qui était inhérent au walking.
Cette chanson, c'est l'histoire d'amour entre deux personnes ou pour vous, ça va au-delà de ça ?
Je pense que ça va un peu au-delà, dans le sens où je pense qu'on est fait pour s'aimer les uns les autres, mais on est aussi fait pour s'aimer soi-même. Le walking, c'est le danse qui est né dans des communautés queer, donc il y a une sorte de revendication à cette époque-là où les gens voulaient s'accepter et être acceptés par les autres, donc c'est les deux.
Mais ce qu'elle dit aussi, cette chanson, c'est « on est fait l'un pour l'autre mm-hmm. ». C'est deux personnes qui se disent ça. Est-ce que de temps en temps, vous, vous vous êtes dit l'un et l'autre, bah, dans la vie qu'on mène, on est quand même fait aussi l'un pour l'autre?
Bah, c'est sûr qu'on a une carrière très longue, et donc en fait, du coup, voilà, quand on patine, c'est comme si on était fait l'un pour l'autre, en effet.
Love, John Legend, c'était donc Frédéric, le choix de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron.
Les ambassadeurs cette année du spectacle Holiday on Ice, que vous pouvez voir actuellement en tournée ce soir à Montpellier, samedi à Clermont-Ferrand, et d'ici fin avril à Nice, à Marseille, Saint-Etienne, Lyon, Orléans et Lille.
Ce sera la fête samedi à Clermont, c'est leur ville à tous les deux. Merci Frédéric Pommier et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
On parle d'un dinosaure, et quel dinosaure?
Oui, absolument, un titanosaure, et j'ai à côté de moi un œuf de dinosaure de 74 millions d'années, c'est quelque chose.
On va venir voir ça tout de suite.
Passez le voir, ça vaut le coup.
On se précipite, à tout de suite.